Africa.
Ambiance.
Ambiance Africa.
Africa.
Avec Aïssa Cham.
Ça y est, il est temps de prendre la direction à Abidjan pour retrouver notre invité en duplex du jour. Avant cela, on va bien sûr vérifier la connexion avec le commandant de bord de la semaine, Alkali Fadiga. Bonjour Alkali, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que tout va bien?
Bonjour Aïssa, ça va très bien et toi?
Oui, très très bien et très heureuse d'accueillir notre invitée du jour, Fatim Djedji, journaliste, elle est présentatrice et travaille à la RTI depuis 2015. Et c'est vrai qu'en 2015, la RTI a voulu impulser un nouveau virage, un nouveau tournant avec de nouveaux programmes, de nouveaux visages, de nouvelles émissions. Fatim Djedji a fait partie de ce mercato, hein, si on peut le dire ainsi. Merci de nous rejoindre en direct sur le plateau d'Africa Radio, Fatim Djedji. Je suis très heureuse de vous accueillir, vous allez bien? J'entends très très mal.
Est-ce que je parlais plus fort?
Bah voilà, très bien, parfait. Merci de nous rejoindre sur l'antenne. On vous accueille avec beaucoup de plaisir. Donc, vous avez fait des études de droit en sciences politiques. Vous dites donc que vous êtes une journaliste autodidacte. Vous êtes curieuse et passionnée par les problématiques du monde depuis votre tendre enfance. D'ailleurs, vous avez travaillé, entre autres, à Africa 24. Alors, vous nous rejoignez aujourd'hui pour nous parler et nous raconter un peu votre passion pour le journalisme et nous parler de votre actualité à travers ce programme que vous avez créé en 2015. C'est une émission qui décrypte l'actualité régionale et internationale, s'appelle Ailleurs dans le monde, qui est diffusée depuis, d'abord c'était une émission de radio qui s'est transformée en émission de télé et qui est diffusée depuis novembre 2019 sur la RTI 1 le samedi à 14h30. C'est bien ça?
Parfait, rien à rajouter si j'ose dire, c'est exactement ça.
Alors, curieuse et passionnée par les problématiques du monde depuis votre tendre enfance, vous nous racontez un petit peu comment s'est révélée cette envie de faire carrière dans le journalisme, Fatim Djedji?
Alors, c'est une envie qui est, on va dire, tardive, hein, qui est arrivée tardivement, puisque effectivement, dans ma jeunesse, j'avais toujours cette curiosité pour le monde que j'ai découvert, surtout au niveau des cours d'histoire, c'est-à-dire... On avait en 6e, 5e, c'est vrai qu'on a la préhistoire, on a le Moyen-Âge, ce qui m'intéressait peu, mais dès qu'on arrivait à la Révolution française, dans l'histoire moderne, les guerres mondiales, j'ai tout de suite été bouleversée,
ouais,
par la connaissance du monde et notamment à travers ces atrocités. J'ai vite aussi découvert l'esclavage, l'histoire du continent africain. J'ai organisé beaucoup de recherches dessus et c'est vrai qu'un peu plus tard, c'est le Rwanda. J'étais jeune à l'époque, mais quand je regardais le journal télévisé, ces images m'ont profondément touchée, meurtrie, parce que ce que je voyais sur les autres sujets, à savoir la Shoah ou l'esclavage, on a l'impression que c'était un peu loin dans le temps. Il y avait, ouais, une distance, il y avait un certain recul, ouais, même si on ne pardonne pas l'immondice. Mais effectivement, là, le Rwanda, c'était... c'était concret, c'était réel, c'était aujourd'hui, maintenant, à côté, et ça m'a vraiment bouleversée. Donc, effectivement, j'ai essayé de comprendre, en fait, comment l'être humain en arrive à ça et comment le monde arrive à faire toutes ces horreurs sans retenir aucune leçon du passé.
Alors ça a été le déclic, le propulseur, mais qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier de journalisme, Fatim Djedji, puisque vous faites aussi du journalisme d'investigation, vous faites des reportages, vous avez été chroniqueuse, vous êtes un peu déployée dans tous les différents aspects de ce métier. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier?
Alors, comme je le dis souvent, dans les spots de mon émission ou à la fin de mes émissions, j'essaye tant que peut se faire de donner des clés de compréhension du monde aux gens. Ce qui m'intéresse, c'est déjà le comprendre moi-même pour ma propre curiosité avant tout, hein. Je le fais avec beaucoup de passion, mais même moi, j'apprends tous les jours, j'apprends tellement. Donc déjà, pour ma propre culture personnelle, c'est très enrichissant. Et après, ce que j'essaie de partager avec les téléspectateurs, les auditeurs, c'est cette compréhension du monde. C'est leur donner, en fait, le maximum d'informations, parce que je reste persuadée que le savoir est une arme. Et donc, armez-vous, citoyens, si j'ose dire. Il faut s'armer. C'est important pour face à la complexité du monde, face au flux d'informations de partout. Je pense que les gens gagneraient à avoir de plus amples connaissances pour avoir une meilleure maîtrise des sujets, de l'information qu'on leur fournit régulièrement. C'est, ouais, vrai que j'ai eu plusieurs casquettes.
Ouais.
C'est celle que je préfère, c'est celle que j'ai actuellement, puisque c'est ma passion. Je suis passionnée de géopolitique et de politique.
Ouais.
Donc je suis comme un poisson dans l'eau, en fait. Je suis comme un poisson dans l'eau. Même si j'ai apprécié, je traite des fois des sujets de société et autres, c'est très intéressant. Mais c'est vrai que la géopolitique et la politique, particulièrement m'intéressent.
Alors justement, cette journaliste et cette femme que vous incarnez, ambitieuse, pugnace également lors des interviews, parce qu'on vous voit face souvent à des responsables politiques, je vais me permettre une expression un peu populaire, mais on voit que vous ne lâchez pas l'affaire. Et même certains d'entre eux qui vous disent « mais vous êtes têtue ». Est-ce que c'est compliqué d'être une femme ambitieuse dans les médias en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire, Fatim Diétché?
Alors, c'est une vraie question que je ne me pose pas parce que je suis une femme très libre. C'est-à-dire que en France, c'est vrai, on pourrait vous dire il y a le racisme, etc. Je ne me suis jamais interrogée sur mon envie, sur mes envies. Je ne me suis jamais freinée, vous voyez.
Ouais.
Je regardais par hasard un documentaire excellent au demeurant de Rokhaya Diallo hier sur être acteur noir en France, etc. Et j'entends la problématique parce que c'est vrai, je suis une femme, je suis noire, mais moi je ne me suis jamais positionnée comme ça. C'est-à-dire, je veux faire quelque chose, je me donne les moyens de le faire. Le reste, ce n'est pas mon problème. Si ça dérange, bon, tant pis, hein. Il y en a toujours que ça va déranger. Mais moi, je ne me positionne pas comme ça. Je ne me dis pas parce que tu es femme, tu ne peux pas, parce que tu es noire, tu ne peux pas, parce que tu as telle génération, tu ne peux pas. Non. Je n'ai pas de limite. Je suis libre et je veux faire quelque chose. Ce sont des challenges, des défis. Donc, je me pose rarement la question. C'est vrai que dans mon domaine, particulièrement, il y a moins de femmes. La géopolitique, et ça, je le regrette, parce que souvent, les femmes s'occupent du genre, ou elles s'occupent d'autres sujets, mais elles sont peu nombreuses, et même au niveau de mes invités, je le déplore, hein, j'en ai eu que deux en 5-6 ans d'existence, des invités, enfin, des experts qui viennent parler de géopolitique, pas spécialement des invités politiques. Donc, oui, il y a peu de femmes dans le domaine. Je le remarque, mais parce qu'on me fait la remarque, mais moi, je ne me suis jamais positionnée en me disant « t'es une femme, non, on n'y va pas, j'y vais ».
Mais quand on regarde de l'autre côté, en fait, dans le regard des hommes, ou en tout cas des personnalités que vous interviewez, vous recevez, est-ce que, justement, le rapport, ou en tout cas le rendu n'est pas un peu biaisé, le fait que vous soyez une femme? Est-ce qu'on n'essaye pas, par exemple, de vous mettre la pression? Parce que, voilà, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire.
Non, j'entends. En fait, il y a certainement des a priori, des préjugés. Moi, maintenant, comme l'émission commence à être connue et dans toute la sous-région, donc c'est vrai que c'est plus facile, on m'ouvre les portes plus facilement. Mais c'est vrai qu'au début, je pense que ça a dû les surprendre, que certains se disaient, mais c'est qui celle-là? D'où elle vient? Non, parce que je vous assure que quand on est professionnel, en tout cas qu'on essaie de l'être, les gens vous jugent à votre travail. Le reste devient secondaire. C'est-à-dire que je trouve pas qu'il y ait une attitude... Et puis c'est comme on dit les Ivoiriens, c'est comment tu t'envoies, on te reçoit. C'est-à-dire que moi j'arrive avec beaucoup de bienveillance parce que je suis pas là non plus pour piéger les gens. Mais en même temps, j'ai la froideur de ce métier qui fait qu'il y a une distance et... Ils sont pas mes camarades, quoi. Voilà. Donc, j'espère, j'ose croire que le professionnalisme fait que finalement, je fais mon job et même au niveau des questions. Après, souvent, certains me disent, vous êtes professionnel, ou me disent, vous avez posé des questions des fois qu'on leur pose jamais, qu'ils ont trouvé pertinentes. Donc, je pense que je m'impose par le travail et rien d'autre.
Alors, on parlait tout à l'heure du déclic, le fait d'embrasser cette carrière de journalisme et de décider de le devenir, mais ça vient peut-être de votre ADN, puisque quand même, c'est important de le dire, on parle souvent de votre feu père, hein, qui n'était autre que cette icône, hein, le roi du Ziglibiti, le feu Ernesto Djedje, une des grandes figures de la musique ivoirienne, africaine. Mais ce qu'on sait peu, c'est que votre maman était script à la RTI dans les années 70. Alors, est-ce que on peut dire en fait que ça fait partie aussi de votre ADN, cette envie de vous lancer dans cette carrière?
Alors là, vous avez complètement raison. Moi, j'ai une phrase que j'apprécie particulièrement de Jean de La Fontaine qui dit que c'est en empruntant les chemins pour l'éviter que l'on croise son destin. C'est vraiment ce qui m'est arrivé. Moi, déjà, je suis née en Côte d'Ivoire. Hein. J'ai passé mes premières années ici. J'ai dû quitter le pays à l'âge de 4-5 ans, enfin, en tout cas, peu de temps après le décès de mon père. Mais j'ai vécu en France. Sincèrement, je suis un pur produit occidental parce que j'ai fait mes études, mes armes, tout là-bas. Et en voulant revenir, c'est vrai que ça s'est imposé à moi. Je suis très rationnelle comme femme, mais des fois, je vous assure qu'il y a des choses quasi mystiques qui se passent.
Ouais.
Et moi, sincèrement, je le dis, je l'assume. Si je suis venue m'installer, c'est parce que mon père, en songe, quoi, me l'exigeait quelque part. Donc, c'était, je sais pas pour quelle raison, hein, encore une fois, c'était une espèce de pression, je le voyais en rêve, il faut que je vienne. J'aurais pu venir en vacances et repartir, hein,
ouais.
J'étais allée sur sa tombe, mais voilà. Et même la RTI, je pensais pas travailler à la RTI, très honnêtement, j'avais eu des propositions, Bolloré Logistique, dans la communication, enfin, j'avais eu des propositions ailleurs. Et j'avais pas du tout envisagé la RTI de prime abord. Et là aussi, mon embauche, pareil, je me suis dit, c'est ça. C'est le destin, c'est là où mon père, ma mère sont rencontrés. C'est un peu ma maison, quoi. Je suis un bébé de la RTI.
Ouais.
Et voilà, s'il n'y avait pas la RTI, peut-être que je ne serais jamais venue au monde. Donc, effectivement, il y a quelque chose. Et puis, ma mère aussi, qui avait commencé une formation de journaliste, c'est vrai. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, un héritage quelque part. Je ne peux pas l'expliquer, mais il n'y a pas de hasard, ça, c'est sûr.
Et qu'est-ce qu'elle vous dit aujourd'hui lorsqu'elle vous voit vous déployer comme ça et surtout de voir que bah, vous. Vous avez réussi en fait à faire ce que vous aimez.
Bah, elle est fière, donc ça me rend d'autant plus fière. Elle est
ouais,
fière.
D'accord.
C'est moi, je l'appelle ma première fan. Ah, bon, vous connaissez les mamans, elle est critique aussi. Hein. Mais
ouais.
C'est quelle coiffure, hein, mais c'est quelle tenue, mais c'est quoi ça. Mais, bon. Mais sinon, elle est fière. Elle me suit vraiment partout. Parfois, elle inquiète quand je suis dans des différents pays.
Ouais.
Mais non, elle est fière. Je pense que elle est fière.
Alors justement, pour revenir ailleurs dans le monde, puisqu'il y a d'autres échéances électorales que nous attendons sur le continent, qui seront couvertes par l'émission, notamment au Niger pour le deuxième tour des élections présidentielles, au Congo le 21 mars prochain, aussi au Bénin, élection présidentielle en avril prochain. Vous y serez pour ailleurs dans le monde. Alors est-ce que lorsque l'on se trouve dans un pays africain en période électorale, qui sont dans des situations de tension, comment on se sent? Est-ce qu'on a peur pour soi et sa propre sécurité, Fatim Diédji?
Alors, je pense que ça doit être inconscient parce que le mot peur, non. Il y a eu des périodes de tension, notamment en Guinée, parce que voilà, il y avait des troubles.
Ouais.
Et c'est vrai que l'idée, c'est pas de mettre en danger, parce que je parle, moi on dit Fatim Diédji, mais j'ai une équipe avec moi, hein, j'en profite pour les citer, mon réalisateur Krosina Konaté, le monteur Zia Polinaire, et les cadreurs en fonction des pays, on les change, mais ils sont nombreux à nous avoir accompagnés. Et bon, moi j'ai un petit grain de folie qui fait que je suis prête à beaucoup de choses, mais généralement même c'est l'équipe qui me calme. Je sais que au Togo, l'un des candidats malheureux, Agbeme Kodjo, avait demandé qu'on revienne à son domicile qui était entouré de militaires, etc. Moi, j'étais prête, hein, il était tard la nuit. J'ai appelé mes responsables à Abidjan qui m'a dit non, pas trop, c'est pas sûr. Voilà. Les équipes aussi m'ont dit non, on va se calmer. Mais moi, sinon, j'avais déjà mis mes chaussures et j'étais déjà prête à y aller, quoi. Donc, au Guinée, c'est vrai, voilà, il y a des moments, il y avait des tensions parce qu'il y a eu une mutinerie la veille d'un rendez-vous avec le chef de l'État. Donc, la ville était bloquée, même la présidence qui nous dit de rentrer, se mettre à l'abri en urgence. Après,
ouais.
Sidou Dalène Diallo aussi a eu des soucis, pareil, s'inquiéter. Donc, c'est l'équipe qui nous a demandé aussi notre sécurité. Nous, on a pris des rues où on sentait que la tension venait. Donc, on a essayé avec le chauffeur de trouver les meilleures trajectoires. J'ai eu des différends avec des fois des militaires. J'ai bon, ça l'appelle la vie. Hein. Je pense
ça fait partie du jeu, ça fait partie.
C'est ça.
Ouais.
C'est ça. Mais je rigolais pas trop devant les militaires, hein, quand ils m'ont. Je sais pas la maligne par contre, ça j'avoue.
Alors je suppose que vous devez avoir beaucoup d'histoires à raconter. Alors Fatim Diédji, revenons sur ailleurs dans le monde. Qu'est-ce que vous avez envie de dire concernant cette émission? C'est quoi les projections pour les mois et les années à venir concernant ce programme?
Bon, déjà, j'espère encore maintenir ce programme à l'antenne sous la forme de débat, parce que c'est important de décrypter l'actualité internationale et sous-régionale. Avec, en plus, j'ai des invités de grande qualité, donc vraiment, je pense que c'est enrichissant. Il y a des duplex, c'est-à-dire que je remercie aussi tous ces confrères qui acceptent finalement de me donner un peu la situation dans leur pays, comment ils la vivent, les réalités.
Oui.
Parce que la difficulté qu'on traite de l'étranger, c'est de ne pas y être. Et moi, c'est vrai que ça me gêne, ce réflexe de toujours lire l'AFP, de lire Reuters, de lire toutes ces agences de presse,
oui,
regarder France 24, RFI, pour se faire sa propre opinion. Alors que forcément, elle est un peu forcément biaisée. Donc là, j'ai des confrères sur place. Et puis, Les élections présidentielles, bon, heureusement, malheureusement, il n'y en a pas non plus chaque année. Donc, c'est vrai que là, c'était, on va dire, une belle opportunité. Je remercie mon directeur général pour la confiance. Donc, moi, je me suis dit, déjà pour la saison d'après, il y a aussi des lieux dont on entend parler, des sigles que tout le monde connaît, ouais. Mais on ne sait pas vraiment ce qu'ils font. Vous voyez, je pense à la BAD, je pense à l'Union africaine, à la CDAO, à l'UEMOA, toutes ces institutions. L'idée, bon, je vais commencer les prises de contact, l'idée, ce serait d'aller peut-être voir un peu ce qui s'y passe dans toutes ces institutions sous-régionales africaines et pourquoi pas d'autres. Hein. Je pense à l'Union européenne, je pense aux Nations unies. Bon, vous voyez, comme souvent, je vois très grand et après, il faut trouver les moyens d'atteindre son objectif. Pour l'instant, ce sont des idées. Il faudrait mettre sur papier... Voilà, prendre les contacts, mais je me dis que peut-être que la saison prochaine, ce sera ça le défi. Aller dans les institutions sous-régionales et internationales pour mieux comprendre leur fonctionnement et leurs agissements.
Très bien, donc ça fait de beaux projets en perspective, Fatim Diédié. Je ne sais pas comment vous avez envie de conclure, je ne sais pas comment vous avez envie de terminer. Est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce qu'on a tout dit? Je ne sais pas, peut-être que j'ai oublié quelque chose.
Non, je pense que l'essentiel a été dit. C'est... Ce qui est peut-être intéressant, c'est effectivement c'est le fait que en Afrique, les médias comme France 24, RFI, j'ai rien contre eux, hein, parce qu'on ne faut pas croire que je m'acharne sur eux. C'est-à-dire qu'ils ont un certain monopole de l'actualité politique régionale. Et donc, c'était ce défi-là de dire que les chaînes africaines aussi, la RTI, ce n'est pas n'importe quel média, les chaînes africaines aussi peuvent avoir accès aux protagonistes et donner accès à toutes ces personnalités du continent aux populations. Et c'était important c'était important de le faire, je pense.
Et que l'information soit traitée par l'Africain, d'un œil africain, que
exactement
du début du process jusqu'à la diffusion, que ce soit fait par les Africains.
C'est ça, c'est le plus important, et que nos politiciens aussi prennent cette habitude de s'ouvrir aux médias locaux, toujours. Courir après ces médias qui ont bien sûr une audience incroyable, hein, attention. Mais je pense que c'est ça aussi l'idée, c'est que je voudrais bien faire changer les mentalités, c'est-à-dire que les chefs d'État africains acceptent de parler aux médias africains en priorité et non à France 24 ou à RFI. Ça, je pense que ce serait un bon défi à relever.
En tout cas, ça a été...
On essaye de faire, en tout cas.
Un plaisir de vous accueillir, de vous entendre raconter un petit peu votre histoire et votre passion pour ce métier qu'est le journalisme. On souhaite longue vie à cette émission ailleurs dans le monde et aux autres qui vont arriver, j'espère, prochainement. Fatim Diédié, on vous salue, on salue vos équipes et puis on vous dit à bientôt sur l'antenne d'Africa Radio.
Merci beaucoup, à très bientôt.
À bientôt, on en profite pour saluer les équipes Ababi, Alkali Fadiga, Fatouyata Baré et Léonce Kouakou et les autres, Juliette également, on vous embrasse, bonne journée, à demain pour notre prochain rendez-vous.